Méditation sur le premier livre de Samuel. Introduction. Le livre de Samuel fait suite au livre des Juges et à celui de Ruth. À son début, la période des Juges n'est pas encore close. Élie, le sacrificateur, était l'un d'entre eux. 1 Samuel 4, verset 18. Et il avait jugé Israël 40 ans. Samuel, le premier prophète, fut aussi juge sur Israël, acte 3 verset 24, et même tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, acte 13 verset 20, il leur donna des juges jusqu'à Samuel le prophète. 1 Samuel 7 verset 6, et Samuel jugea les fils d'Israël à Mitzpah. Il crut pouvoir établir ses fils comme juges après lui, 1 Samuel 8, verset 1, mais leur infidélité mit fin à cette économie. Au reste, le temps des juges avait un caractère plutôt transitoire. Ils apportaient un soulagement temporaire à la misère du peuple, coupable d'avoir laissé subsister les ennemis de l'Éternel au lieu de les exterminer. Entraîné par ces nations dans l'iniquité et l'idolâtrie, Israël avait dû subir leur joug comme châtiment de sa désobéissance. Sous leur tyrannie, le peuple gémissait et criait à l'Éternel. Celui-ci, plein de pitié pour eux, envoyait des libérateurs qui leur procuraient du répit en les délivrant de la main de ceux qui les pillaient. Hélas, rien ne changeait leur cœur. Lorsque le juge mourait, ils recommençaient à se corrompre plus que leur père, marchant après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Ils n'abandonnaient rien de leurs actions et de leurs voies obstinées. Juges 2, verset 19. Pendant la période des juges, la sacrificature reste le lien immédiat et reconnu, le point de contact entre le peuple et Dieu. Elle représente le peuple dans ses rapports avec Dieu qui est lui-même roi sur Israël. À de certains moments, au jour où chacun faisait ce qui était bon à ses yeux, Juges 21 verset 25, le rôle de la sacrificature pouvait être comme éclipsé, mais le lien formé par elle n'en subsistait pas moins. Le livre de Ruth s'intercale vers la fin de l'histoire des juges pour nous révéler la pensée secrète de Dieu au sujet d'une économie nouvelle, la royauté. On y voit Dieu préparant un roi selon son cœur, comme le Shiloh de la prophétie de Jacob, il devait sortir de Juda. Ce livre débute donc par Élimélec, homme de Juda, et proclame en terminant le nom du roi David, nous montrant ainsi d'avance qu'elle sera loin de l'Éternel. Notons ici que la relation avec l'Éternel diffère sous la sacrificature et sous la royauté. Sous la première, cette relation est immédiate, car le sacrificateur représente le peuple devant Dieu, tandis que la royauté est une autorité établie sur le peuple. Ce dernier était assujetti au roi qui devait le gouverner selon les pensées de Dieu. C'était du roi que Dieu attendait la fidélité. C'était lui qui était responsable devant Dieu de l'infidélité d'Israël, et la destinée du peuple dépendait de sa conduite. Jusqu'à l'établissement définitif du roi, nous avons, dans le premier livre de Samuel, une période de transition. Le premier grand fait, constaté dans ce livre, c'est que la sacrificature est devenue infidèle et ne peut plus être le fondement des relations du peuple avec Dieu. Sans doute elle est toujours nécessaire et ne peut être abolie, mais elle cesse d'occuper la première place. Un nouveau fondement de relation est établi dans la royauté. Alors Dieu se suscitera un sacrificateur fidèle qui marchera toujours devant son nom, au lieu d'être, comme par le passé, le lien entre le peuple et Dieu. 1 Samuel 2, verset 35. Et je me susciterai un sacrificateur fidèle, il fera selon ce qui est dans mon cœur et dans mon âme, et je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon nom. Tout cela explique pourquoi le premier livre de Samuel débute par la tribu de Lévi et par la sacrificature, et non, comme le livre de Ruth, par Juda et la royauté. Elkana était un lévite. Élie est le souverain sacrificateur. Nous sommes ainsi sur le terrain de la sacrificature. Voir à la fin, note 1 sur les lévites et note 2 sur la souveraine sacrificature. Restée fidèle, elle n'aurait pas donné lieu à un changement d'économie. Il fallait donc en constater la ruine avant l'entrée en scène du vrai roi, car Dieu ne pouvait rester en relation avec le peuple par l'intermédiaire d'une sacrificature corrompue. Mais, d'autre part, il était nécessaire de montrer que, Dieu introduisant son roi comme intermédiaire entre Israël et lui, cette relation ne pouvait être établie sur le pied de la chair. De là toute l'histoire de Saül, depuis le chapitre 9 à la fin du livre. Dieu pouvait, sans doute, employer un roi selon la chair comme libérateur de son peuple, mais cette fonction ne le qualifiait pas moralement pour être chef d'Israël. Le livre des Juges nous présente la même vérité dans l'histoire de Samson. Le don et l'état moral d'un homme sont deux choses fort différentes. Saül, plus tard un réprouvé, peut être parmi les prophètes. Balaam peut bénir Israël. Judas agir en puissance avec les disciples, tout en étant l'instrument de l'ennemi pour livrer le Seigneur, son maître. Note 1 sur les Lévites. Elkana, chapitre 1er verset 1, était Lévite de la descendance de Kehath de la tribu de Lévi. 1 Chronique 6 verset 27 et 28. Les Lévites se rangeaient sous trois chefs, Gershom, Kehath et Merari, formant ainsi trois familles distinctes auxquelles était confié tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. 1 Chronique 6, verset 48. Chacune avait son office particulier. Les Gershomites devaient porter tous les tapis du tabernacle, les Mérarites ses haies et ses piliers. Les Kehathites étaient favorisés, par conséquent responsables entre tous. Leur service était particulièrement intime. Ils portaient tous les ustensiles du tabernacle, y compris l'arche et le voile. Elkana était un Kehathite. De Kehath étaient sortis Moïse et Aaron. Les fils de Moïse, Gershom et Éliézer, avec leurs descendants, furent attribués à cette famille. Sous le règne de David, et quand il fut question de bâtir la maison de Dieu, le service des Lévites différa notamment de leur service pendant la marche du désert. 1 Chronique 23, versets 28 à 32. Car leur place était à côté des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, pour veiller sur les parvis et les chambres, et sur la purification de toutes les choses saintes, et sur l'œuvre du service de la maison de Dieu, pour les pains à placer en rangée, et la fleur de farine pour le gâteau et les galettes sans levain, et ce qui se cuit sur la plaque, et ce qui est mêlé avec de l'huile, et toutes les mesures de capacité et de longueur, et pour se tenir là chaque matin, afin de célébrer et de louer l'Éternel, et de même chaque soir. Et pour être de service pour tous les holocaustes qu'on offrait à l'Éternel, au sabbat et aux nouvelles lunes et aux jours solennels, en nombre, conformément à l'ordonnance à leur égard, continuellement, devant l'Éternel. Et ils vaquaient à leur charge à l'égard de la tente d'assignation, et à leur charge à l'égard du lieu saint, et à leur charge à l'égard des fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Note 2 sur la souveraine sacrificature. La souveraine sacrificature de ce temps-là était représentée par Élie. Outre Nadab et Abihu, morts sans postérité, 1 Chronique 24, verset 2, Aaron avait deux fils, Éléazar et Ithamar. De ces deux hommes devaient sortir tous ceux qui exerceraient la sacrificature. Leur fonction consistait, premièrement, à faire fumer ce qui brûlait sur l'autel de l'Holocauste et sur l'autel de l'encens, pour tout le service du lieu très saint, et, deuxièmement, à faire propitiation pour Israël. 1 Chronique 6, versets 48 et 49. Éléazar, l'aîné des deux fils d'Aaron, était père de Phinée, qui fut jaloux de la jalousie de l'Éternel au milieu des fils d'Israël. Et c'est à cause de son zèle que Dieu lui donna une alliance de sacrifice perpétuel pour lui et pour sa semence après lui. Nombre 25, versets 10 à 13. La descendance d'Éléazar est donc la lignée fidèle à laquelle appartient la promesse. Cette lignée se continue par Tsadok qui exerça la sacrificature sous David et sous Salomon, 2 Samuel 8, verset 17, et 1 Roi 2, verset 35, et par Azaria, c'est lui qui exerça la sacrificature dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem, 1 Chronique 6, verset 10. Ithamar eut pour descendant Élie, qui paraît au chapitre 1er de notre livre. En ce temps-là, la souveraine sacrificature appartenait à la famille d'Ithamar. Puis vint Achimélec, que Saül immola avec toute la sacrificature d'alors. Abiathar seul échappa et se réfugia auprès de David. Aussi la descendance d'Ithamar fut-elle bien moins nombreuse que celle de son frère aîné. 1 Chronique 24, verset 4. Abiathar exerça plus tard la sacrificature avec Tsadok au temps d'Absalom, 2 Samuel 17, verset 15. Mais auparavant, il avait été utile à David, étant affligé dans tout ce en quoi le roi était affligé. 1 Roi 2, verset 26. Plus tard, ce même Abiathar, quand David fut devenu très vieux, se ligua avec Joab pour substituer à Salomon Adonija comme roi. 1 Roi 1, verset 7. Tandis que Tsadok demeura fidèle. 1 Roi 1, verset 8. Enfin, Salomon chassa Abiathar de la souveraine sacrificature parce qu'il était digne de mort pour avoir conspiré contre lui et aussi pour accomplir la parole de l'Éternel qu'il prononça au sujet d'Élie en Silo. 1 Roi 2, verset 27.